Chapitre 2. 1. En approchant de Rome, vers laquelle l'aérien filait à une hauteur d'environ 200 mètres, dans la pureté merveilleuse d'une aube de juillet, Percy Franklin avait l'impression d'approcher des portes mêmes du ciel. Car ce qu'il avait laissé derrière lui, à Londres, 10 heures auparavant, lui apparaissait comme un bon échantillon de ce que devaient être les cercles supérieurs de l'enfer. C'était un monde d'où Dieu s'était retiré, mais en le laissant dans un état de profonde satisfaction de soi-même, dans un état dépourvu d'espoir comme de crainte, mais admirablement pourvu de toutes les conditions du bien-être. Non pas au reste que ce monde, tel que Percy l'avait quitté, fût absolument tranquille dans sa jouissance de vivre, car jamais l'énorme ville n'avait été plus excitée, d'une nervosité plus fiévreuse. Toutes sortes de rumeurs couraient. Felsenburgh allait revenir, il était de retour, il n'était jamais parti. Il allait être nommé président du Conseil, premier ministre, tribun, même roi, sinon empereur d'Occident. Toute la constitution anglaise allait être refaite. Le crime allait être aboli par ce même pouvoir mystérieux qui avait déjà aboli la guerre. Felsenburgh avait découvert un moyen d'assurer librement la nourriture à tous. On avait trouvé le secret de la vie, et les hommes n'allaient plus connaître ni la maladie ni la mort. Voilà ce que l'on se disait dans les rues, dans les voitures publiques, dans les conversations intimes. Les journaux n'étaient remplis que des affirmations de ce genre. Oui, et à tout cela, il manquait seulement, songeait Percy, ce qui rend une vie digne d'être vécue. À Paris, pendant l'arrêt de l'aérien à la grande station de Montmartre, qui jadis avait été une église du Sacré-Cœur, il avait entendu le bourdonnement de la foule ivre de vie. La ville entière retentissait de chants joyeux, resplendissait de lumières multicolores, ressemblait à un immense théâtre où se déroulerait une fête fantastique. Puis, lorsque l'aérien s'était remis en marche, Percy avait vu les longues lignes de trains affluant dans la capitale. Pareils à des serpents lumineux, ils amenaient les habitants des provinces au grand congrès national que les législateurs français avaient convoqué pour discuter les termes d'un nouvel appel au bienfaiteur Felsenburgh. Entre Paris et Lyon, ensuite, ça avait été l'horreur des champs abandonnés, des vieilles villes à jamais désertes, dépeuplés à la fois par la concentration dans les grandes cités et par les progrès du malthusianisme. La nuit chaude était d'une clarté exceptionnelle et Percy avait longtemps résisté au sommeil pour jouir de la variété et de la beauté du spectacle qui s'offrait à lui. Cependant, il s'était endormi lorsque l'air froid des Alpes avait commencé à entourer sa voiture. Et ce n'avait été que par instant qu'il avait entrevu à ses pieds les pics solennels baignés de lune, les profondeurs noires des abîmes, le reflet argenté des lacs, l'entassement pittoresque des maisons grises dans les villes et villages de la vallée du Rhône. Une fois, il s'était réveillé pour de bon en voyant passer dans la nuit un des grands aériens allemands, tout doré et illuminé, pareil à une phalène géante avec des antennes de lumière électrique. Et les deux vaisseaux s'étaient salués à travers une demi-lieue d'air silencieux, avec un cri pathétique comme celui de deux oiseaux de nuit qui se rencontreraient en plein vol. Turin et Gênes dormaient quand l'aérien les avait traversés. Florence faisait à peine mine de se réveiller. Et maintenant, la campagne glissait rapidement, toute ridée et bosselée, à 200 mètres au-dessous de la voiture. Et Rome allait paraître d'un moment à l'autre. L'indicateur électrique placé au-dessus du lit de Percy ne désignait plus qu'une distance de moins de 100 kilomètres. Le prêtre acheva de se secouer de son sommeil et prit dans son sac son bréviaire. Mais son attention était distraite en prononçant les paroles de l'office. Et quand il eut achevé prime, il referma le livre, se renfonça sous les fourrures et se laissa aller au cours vagabond de sa rêverie. il avait éprouvé un soulagement singulier lorsque, 3 jours auparavant, une lettre du cardinal protecteur lui avait enjoint de venir à Rome, en ajoutant qu'il aurait sans doute à y faire un assez long séjour. Il revit en pensée les journées précédentes, songeant au rapport qu'il allait devoir en faire. Depuis sa dernière lettre, 7 apostasies notables s'étaient produites dans le seul diocèse de Westminster, 2 prêtres et 5 laïcs très connus. De tous côtés, on parlait vaguement de révolte. Percy avait vu un document menaçant qui, sous le nom de pétition, demandait à l'archevêque le droit de renoncer au costume ecclésiastique et qui portait la signature de 120 prêtres anglais et gallois. Les signataires de la pétition écrivaient que la persécution était imminente de la part de la foule, que le gouvernement n'était pas sincère dans ses promesses de protection, et que, même chez les plus fidèles des catholiques, la loyauté religieuse était tendue au point de risquer d'éclater. Quant aux commentaires qu'appelait ce fait, Percy était bien résolu à dire, devant les autorités, comme il l'avait écrit 20 fois déjà, que cette perspective de persécution était certainement fondée, mais que son importance n'était rien en comparaison du nouveau déchaînement de l'enthousiasme humanitaire. Cet enthousiasme avait infiniment grandi depuis la venue de Felsenburgh et la publication de la paix d'Orient. L'homme, tout à coup, était littéralement devenu amoureux de l'homme. Des quantités de personnes s'étonnaient d'avoir jamais pu croire, ou même rêver, que c'était un dieu inconnu qu'il fallait aimer. Et elles se demandaient par quel étrange sortilège elle avait pu rester aussi longtemps plongée dans cet aveuglement. Le christianisme, le théisme même, était en train de s'effacer du cerveau du monde, comme s'efface un brouillard matinal au lever du soleil. Et, quant à la vie personnelle de Percy, quant aux mesures qu'il pouvait proposer, tout cela était nettement gravé dans son cœur, presque depuis le jour où il était rentré en Angleterre. Ainsi, il mettait en ordre ce qu'il allait avoir à communiquer au cardinal Martin, lorsque, tout à coup, relevant la tête, il aperçut un dôme se dresser sur un grand tapis de verdure. Et aussitôt toutes ses réflexions et tous ses raisonnements s'arrêtèrent, et une seule idée, ou, pour mieux dire, un seul mot, Rome, le remplit tout entier. Il se releva machinalement, sortit de son coupé et s'avança dans le couloir central jusqu'à la proue du vaisseau. Pendant 1 minute ou 2, il observa la ferme et imposante figure du pilote debout à son poste. Cet homme se tenait immobile, les mains sur le volant d'acier qui dirigeait les vastes ailes, les yeux sur l'instrument qui lui révélait, comme le cadran d'une horloge, la force et la direction des poussées du vent. Et de temps à autre, ses mains faisaient un mouvement léger, auxquelles répondaient aussitôt les grandes ailes en éventail, tantôt relevant l'aérien, tantôt le faisant descendre. En face de lui, à ses pieds, fixés sur une table circulaire, étaient différents indicateurs électriques dont Percy ignorait la signification. L'un d'eux semblait une sorte de baromètre, sans doute pour indiquer l'altitude. Un autre était une boussole. Plus loin, au-delà des fenêtres bombées, s'ouvrait le bleu infini du ciel. Et le prêtre songeait combien tout cela était prodigieux, et que ce n'était là, pourtant, que l'un des innombrables aspects de la grande force contre laquelle, désormais, le surnaturel avait à lutter, dans la faible et crédule intelligence des hommes. Il soupira, se détourna, et revint s'appuyer à la fenêtre de son compartiment. Là, une vision étonnante se découvrit à lui, plus étrange que belle en vérité, et ressemblant plutôt à une vision de rêve qu'à une vue réelle. À droite, c'était la ligne grise de la mer, se soulevant et retombant d'une façon à peine perspectible, aussi doucement que l'aérien lui-même. À gauche, c'était la campagne illimitée, aperçu par instant entre les ailes de la machine, avec, çà et là, le dos jaune d'un village, aplati jusqu'au point d'être méconnaissable, ou bien l'ovale bleu d'un lac, tout cela se mêlant aux masses grises des collines de l'Ombrie. Et, devant lui, apparaissant et disparaissant, d'après les mouvements de la voiture, le prêtre apercevait les contours vagues de Rome et les énormes faubourgs neufs, le tout couronné par ce dôme bleu qui grandissait et devenait plus haut de minute en minute. L'unique bruit, et dont Percy avait depuis longtemps cessé d'avoir directement conscience, était celui du flot continu de l'air, et ce bruit diminuait à mesure que la vitesse de la marche décroissait, tombant à une moyenne de 50 km par heure. Soudain, il y eut un tintement de cloche, et Percy, tout de suite après, éprouva une étrange sensation de malaise, pendant que la voiture descendait presque en ligne droite. Il chancela, étreignit convulsivement le rebord de la fenêtre. Quand il releva les yeux, tout mouvement semblait avoir cessé. Il pouvait voir des tours devant lui, une rangée de toits de maison, et plus bas, la ligne tournante d'une route semée de petites taches de verdure. De nouveau, un son de cloche, que suivit cette fois un cri long et doux. De toutes parts, dans les coupés voisins, Percy entendait des mouvements de pieds. Un garde en uniforme passa rapidement le long du corridor vitré. Et puis, après encore un léger rappel du malaise de tout à l'heure, le prêtre découvrit, tout à fait au niveau de ses yeux, le grand dôme devenu gris sous le bleu du ciel. Un dernier coup de cloche, une faible vibration pendant que l'aérien descendait dans le dock, au plancher formé d'un réseau d'acier, des visages se montrant aux fenêtres découpées, et Percy se dirigea vers la porte de sortie, sa valise en main. 2. Une demi-heure plus tard, assis devant un bol de café dans une petite chambre du Vatican, le jeune prêtre anglais éprouvait encore une vague sensation de fatigue, suite inévitable du voyage trop rapide. Mais à cette sensation s'en mêlait une autre, toute de soulagement et de plaisir, à mesure qu'il se rendait mieux compte du fait de son arrivée à Rome. Combien il avait trouvé étrange, tout à l'heure, de rouler sur des pavés inégaux, dans un petit fiacre d'osier, absolument comme il avait fait 20 ans auparavant en venant à Rome pour la première fois. Tandis que le monde entier, alentour, s'était transformé, Rome était restée immobile, ayant d'autres affaires pour l'occuper que les améliorations matérielles. Maintenant surtout que tout le poids spirituel du globe ne reposait que sur ses épaules. Tout dans cette ville vénérable, non seulement avait conservé son caractère d'autrefois, mais semblait même en voir encore reculer dans le temps, pour se rapprocher des conditions matérielles de la vie au siècle passé. Aussitôt que Rome, en 1972, avait obtenu son indépendance, toutes les améliorations qui avaient introduites le gouvernement italien avaient commencé à être abandonnées. Les tramways avaient cessé de courir dans les rues, les aériens avaient reçu défense d'entrer dans la ville, les bâtiments nouveaux avaient été ou bien démolis ou bien affectés à l'usage de l'église. Ainsi, le Quirinal servait désormais de demeure au pape rouge. Les anciennes ambassades étaient des séminaires, et le Vatican lui-même, à l'exception de l'étage du haut, avait été accommodé de façon à loger les membres du sacré collège. C'était, au dire des archéologues, une ville extraordinaire, l'unique exemple survivant des temps anciens. Là seulement, on pouvait voir les incommodités de jadis, les horreurs du manque d'hygiène, l'incarnation d'un monde perdu dans le rêve. Et l'antique pompe de l'église, elle aussi, revivait. Les cardinaux, une fois de plus, traversaient la ville dans les carrosses dorées. Le pape chevauchait sur sa mule blanche. Le Saint-Sacrement, quand on le portait par les rues étroites et malodorantes, était accompagné du tintement des cloches et de la lumière des lanternes. Cette rétrogression monstrueuse servait encore de prétexte tous les jours pour de violentes dénonciations de la barbarie chrétienne. Mais déjà le monde s'y était habitué et n'y pensait plus que comme à une preuve de l'hostilité irréconciliable de la superstition contre le progrès. Et cependant Percy, en revoyant tout à l'heure, durant son trajet de la porte du peuple au Vatican, les vieux costumes des paysans, les charrettes de vin, bleues, blanches et rouges, les rebords des trottoirs semés de trognons de choux, les linges mouillés pendus à des cordes, d'une maison à l'autre, et les mules et les chevaux, avaient trouvé à tout cela quelque chose de réconfortant, sans pouvoir s'expliquer cette impression. Tout lui avait, en quelque façon, rappelé que l'homme était un être humain, et non pas divin, comme le proclamait le reste du monde. Humain, et par conséquent, porté à l'insouciance, désireux de maintenir son individualité. Humain, et par conséquent, occupé d'autres intérêts encore que de ceux de la vitesse, de la propreté et de l'exactitude. La chambre où était assis maintenant le prêtre anglais, auprès de la fenêtre ombragée par des stores, car le soleil commençait à chauffer, le ramenait également à plus d'un siècle et demi en arrière. Elle était traversée dans tout son long par une ample table d'acajou, autour de laquelle étaient disposés de hauts fauteuils de bois. Le sol était recouvert de briques rouges, avec de minuscules morceaux de natte pour mettre sous les pieds. Les murs blancs, peints en des trempes, n'étaient ornés que de trois vieux tableaux, et un grand crucifix flanqué de chandeliers se dressait sur un petit autel à côté de la porte. C'était là tout le mobilier, à l'exception d'un bureau, entre les fenêtres, sur lequel était posée une machine à écrire. Et la vue de cette machine ne fut pas sans gêner le prêtre, dans l'impression d'ensemble que lui offrait son milieu nouveau. Déjà le poids qu'il portait sur son cœur lui était allégé, et il s'étonnait de la rapidité avec laquelle s'était produit ce grand changement. La vie ici semblait infiniment plus simple. L'existence du monde intérieur était, infiniment plus que nulle autre part, considérée comme réelle et prise au sérieux. L'ombre même de Dieu à Rome apparaissait plus visible. L'esprit ici ne trouvait plus d'impossibilité à se représenter positivement que les saints veillaient et intercédaient, que Marie siégeait sur son trône, et que le disque blanc sur l'autel était la personne même de Jésus-Christ. Percy n'était pas encore entièrement pacifié, mais déjà il se sentait plus à l'aise, moins désespérément anxieux, plus pareil à un enfant, plus prêt à se reposer volontiers sur l'autorité qui prétendait à régner sur lui sans explication. 12 heures auparavant, il était encore à Londres dans le tourbillon de la vie moderne. Et voici que, désormais, ce tourbillon avait disparu, pour le laisser dans un monde tout imprégné de calme et de recueillement. Il y eut un bruit de pas au dehors, la porte s'ouvrit et le cardinal protecteur entra. Un an seulement s'était passé depuis que Percy l'avait vu, et cependant c'est à peine si, au premier abord, il le reconnut. C'était un très vieil homme qu'il voyait à présent devant lui, faible, courbé, le visage couvert de rides, la tête couronnée de cheveux d'un blanc de lait sous la petite calotte écarlate. Il portait sa robe noire de bénédictin avec une simple croix abbatiale sur la poitrine. Il marchait lentement, d'un pas incertain, s'appuyant sur une lourde canne. Le seul signe de vigueur, chez lui, était l'éclat singulier de la ligne étroite de ses yeux, transparaissant sous les paupières tombantes. Il tendit sa main en souriant, et Percy s'agenouilla pour baiser l'anneau d'améthyste. « Soyez le bienvenu à Rome, mon enfant, » dit le vieillard avec une vivacité de voix inattendue. « On m'a dit qu'il y a une demi-heure que vous étiez ici, mais j'ai pensé qu'il fallait vous laisser d'abord prendre votre café. » Percy murmura un remerciement. « Mais maintenant il faut que nous causions un peu, » reprit le cardinal en l'invitant à s'asseoir. «
Le Saint-Père désire vous voir à 11 heures. » Percy fit un mouvement de surprise. « Ah, mon enfant, c'est que nous sommes forcés d'aller très vite par le temps qui court. Pas une minute à perdre. Vous avez bien compris que nous allons vous garder à Rome ?»«
J'ai pris toutes mes mesures pour cela, votre éminence. » »«
Parfait. Nous sommes très heureux de vous ici, père Franklin. Le Saint-Père a été plusieurs fois vivement frappé de vos commentaires. Vous avez prévu les choses d'une façon remarquable. »
Percy rougit de plaisir. C'était presque la première fois qu'il recevait une parole d'encouragement.
Le cardinal Martin poursuivit. « Je puis bien vous dire que nous vous considérons comme le plus précieux de nos informateurs anglais. Et c'est précisément pourquoi nous vous avons fait venir. Il faudra désormais que vous nous aidiez ici, comme une sorte de consulteur. Rapporter les faits, c'est ce que chacun peut faire. » Mais chacun n'est pas en état de bien les comprendre. Vous paraissez très jeune, mon père. Quel âge avez-vous ?
J'ai 33 ans, votre éminence.
Et ces cheveux blancs vous donnent, avec cela, un air si sérieux. Eh bien, mon père, voulez-vous venir avec moi dans ma chambre ? Il est 8 heures. Je vous garderai jusqu'à 9, puis vous vous reposerez un peu, et à 11 heures, je vous conduis vers sa sainteté.
Percy se releva, avec un étrange sentiment d'exaltation intérieure, et courut ouvrir la porte devant le cardinal.